de nouveaux amis.
Non, non.
Elle s'est fabriquée
un nouvel ami. Je vous présente Fourchette.
Salut.
Salut.
Ah, c'est une cuissette.
Oui, oui, je sais. Fourchette est le jouet que Bonnie aime le plus en ce moment. On doit veiller à ce qu'il ne lui arrive aucun mal.
Woody, on a un problème.
Je ne suis pas un jouet. Je sers à manger de la soupe, de la salade, peut-être du chili. Et hop, à la poubelle. Liberté!
Vous venez d'entendre la bande-annonce de Toy Story 4 parce que ça sort ce soir. Et pour en discuter, on reçoit Patrick Marleau en studio. Salut Patrick.
Bonjour.
Donc, la quatrième fois Toy Story... Quand j'ai vu ça, numéro 4, je me suis dit, non, c'est-tu comme Régis Labeaume avec son mandat de trop? Ça va-tu être le film de trop, cette affaire-là?
Ben, si on suit aux critiques, vraiment pas, parce que les critiques sont très positives. Et honnêtement, Pixar, qui est derrière la création des histoires de jouets, font très attention. Ils font pas des suites, honnêtement, pour rien. Ils attendent vraiment d'avoir de bonnes histoires, parce que c'est quand même le quatrième film sur près de 24 ans là, d'existence. Donc,
Ouais, mais Buzz et Woody, là, il y a plus grand secret, il n'y a plus grand chose qui peut nous surprendre, qui peut nous émouvoir, qui peut nous faire vibrer. On l'a déjà vu trois fois plutôt qu'une, là.
Ouais, mais quand il reste toujours des bonnes histoires à raconter, Eric, je pense que ça va être un très, très grand succès.
Moi, Patrick, je me suis sentie flouée, là, parce que j'ai pleuré, là, au troisième à la fin. Ils nous avaient dit c'est fini, puis là, la boîte est transmise à une autre petite fille, puis tout ça. Puis...
Je partage tes sentiments, j'ai réécouté cette semaine, j'avais encore les larmes aux yeux.
J'ai fait comme, voyons donc pourquoi, là, je me sens flouée, là. J'aurais pas dû brailler la dernière fois.
Attendons, laissons la chance quand même aux coureurs. Comme je dis, les critiques sont très positives, vraiment. Apparemment qu'ils réussissent à se réinventer, à amener quelque chose de nouveau. Donc, on verra.
Mais là, c'est le dernier, là.
Oui, officiellement, je pense que Pixar a annoncé vraiment que ça se termine là pour Woody et Buzz. Mais au-delà de cette nouveauté, en fait, je pense qu'il est important de parler aujourd'hui, c'est vraiment l'héritage qu'Histoire de jouets et surtout Pixar ont eu sur le monde du cinéma. Parce que, évidemment, le premier Histoire de jouets sorti en 1995, c'est le premier film, vraiment, le premier long-métrage conçu entièrement par ordinateur. Et ça a été vraiment une révolution à l'époque parce qu'évidemment, on faisait les films encore... par dessin, donc en studio avec des animateurs. Et le film est vraiment...
Ou même des personnages, des êtres humains souvent qui servaient.
Ouais, donc le film a eu un grand succès. Évidemment, les autres films qui ont suivi aussi de Pixar. Et là, tous les studios se sont mis à copier la recette. On a eu les Shrek, on a eu les Ice Age, entre autres. Et là, évidemment, tous les studios d'animation classique ont fermé leurs portes. Ils se sont dirigés vers l'animation par ordinateur qui était aussi moins coûteux à produire à ce moment-là. Et... il faut quand même parler aussi, donc on parle d'histoire de jeu, on parle surtout de Pixar, comme je disais, qui est le studio derrière ça. Pixar a quand même vraiment une histoire très intéressante. D'ailleurs, le studio fête ses 40 ans cette année, donc a été fondé en 1979 par quelqu'un quand même d'assez connu et un visionnaire dans le monde du cinéma. Et ça, très peu de gens le savent, mais ça a été fondé par George Lucas, le créateur de Star Wars.
Okay.
Ouais, donc déjà en 1974, Lucas avait créé Industrial Light and Magic, qui était sa société d'effets visuels pour créer des effets de Star Wars.
C'est un visionnaire quand tu y penses.
Vraiment. Et déjà, Lucas, lui, est quelqu'un de la région de San Francisco, c'est pas quelqu'un d'Hollywood, Los Angeles. Donc, côtoyait Steve Jobs et toute cette gang-là là, de farfelus qui sortaient d'université, qui croyaient à la technologie, aux ordinateurs.
Plus high-tech, là, ouais.
Tout à fait. Alors, lui croyait dans ce potentiel-là. Alors, il a décidé de fonder son studio. Pixar a produit quand même deux séquences pour le cinéma. Pour les plus vieux, vous vous rappelez peut-être du deuxième film de Star Trek, La colère de Khan. Il y avait une petite séquence où on voyait une planète, la planète Genesis, qui se formait, en fait. Alors ça avait été créé vraiment par ordinateur, par Pixar. Et aussi, le film Le jeune Sherlock Holmes, il y avait un vitrail qui prenait vie, qui affrontait le personnage. Donc ça avait été créé par Pixar au cinéma, mais c'était très coûteux à ce moment-là quand même. Et Lucas sortait d'un divorce au début des années 80. Évidemment, la franchise Star Wars rapportait moins d'argent. Il venait de construire son fameux Skywalker Ranch qui avait coûté beaucoup, beaucoup de sous. Alors finalement, il a vendu Pixar à un autre visionnaire, Steve Jobs d'Apple, qui a acheté ça pour la somme de 5 millions. Jobs, lui, voyait vraiment plus l'utilité de Pixar pour le domaine médical, en fait, parce que Pixar était connu à ce moment-là pour vraiment créer la peau, toute la texturisation et tout ça. Alors, vraiment, les premiers pas de Pixar ont été dans le monde médical, mais il y avait un personnage qui faisait partie de la boîte, John Lasseter, donc qui est derrière les films d'histoire de jouets et tout ça. Et lui, il avait réussi à avoir un petit budget pour s'amuser. Alors, lui, il faisait des courts-métrages d'animation et finalement, un de ces courts-métrages-là, Tin Toy, en 88, a eu beaucoup de succès, a remporté l'Oscar. Et là, les compagnies se sont mis à approcher Pixar pour qu'ils produisent des commerciaux en animation par ordinateur pour eux. Et c'est là que, tranquillement, Pixar a commencé.
Ouais, a
réussi à avoir de l'argent. Et là, Disney ont réussi, ils sont venus dans le portrait, ils ont offert un contrat, disons, de 3 films avec Pixar. Donc, Histoire de jouer a été le premier film à être produit, mais Steve Jobs, quand même, avait mis au-delà de 50 millions de sa propre argent à ce moment-là. Et il voulait vendre Pixar parce qu'il n'y croyait plus. Mais là, avec le buzz d'Histoire de jouets, il a dit « Oh, je vais attendre, je vendrai pas tout de suite. »
Un petit coup d'argent, je vais attendre un peu, c'est trop payant cette affaire-là.
C'est ce qui est arrivé en 2006, Eric. Sais-tu comment il a vendu Steve Jobs à Disney?
Il avait payé 5 millions au début.
5 millions, ben, il a injecté 50 millions au total.
50 millions, OK.
Il a vendu 7,4 milliards.
Ah, un pas pire rendement sur l'investissement.
C'est assez intéressant.
Je veux que tu me parles aussi du rôle du Québec dans son ascension, parce qu'il y en a un.
Ben oui, ben, en fait, le Québec, on était dans les premiers à avoir des programmes un peu d'animation donnés dans différentes écoles. Donc vraiment, au tournant des années 80, fin 90, début 2000, il y a beaucoup donc d'artisans qui ont réussi à décrocher quand même d'emplois aux États-Unis. Moi, j'en connaissais quelques-uns qui ont travaillé beaucoup dans le domaine du jeu vidéo aussi, mais qui s'exilaient pour travailler pour les grands studios. Entre autres, je connaissais quelqu'un qui travaillait pour Industrial Light and Magic, la boîte de Lucas et tout ça. Donc, DreamWorks aussi, la boîte de Spielberg, a engagé beaucoup de Québécois. Donc, on était vraiment dans les premiers à percer ce marché-là du travail.
Quand on parle de Toy Story 4 ou de Histoire de jeu, c'est Histoire de jeu,
de jouets.
De jouets, excuse-moi. Est-ce que c'est pour des adultes aussi? Parce que on se demande toujours si c'est pas juste pour un public d'enfants, puis c'est les parents qui accompagnent leurs enfants. Mais y a-tu des adultes qui trippent assez fort pour y aller tout seul, sans enfants? Ils peuvent s'assumer, là.
C'est un très bon point.
Ou qui cherchent des neveux et des nièces parce qu'ils veulent absolument y aller puis ils veulent pas aller à la cave, là.
Écoute, moi, j'ai une fille d'11 ans, mais c'est certain que j'y serais allé quand même seul. Parce que c'est la force des films de Pixar. On
elle,
a
ça
tous
tente
vu.
Pas, mais tu l'obliges parce que toi, tu vas aller le voir puis qu'elle t'accompagne pour être sûr que ça n'a pas l'air fou, c'est ça?
La force de Pixar, c'est que leur film a vraiment 2 niveaux de référence d'humour. Donc, il y a beaucoup de gags, un peu comme les Astérix en bande dessinée. Il y a des gags qui s'adressent pour les
enfants,
plus vieux et d'autres pour les enfants. C'est ce qui fait le charme et ce qui fait qu'on ne se tente pas de les réécouter. Et les jeunes, quand ils réécoutent plus vieux, alors là, ils découvrent aussi plein d'autres clins d'œil qu'ils avaient manqué plus jeunes.
Il y a ça aussi, mais ceux qui ont écouté Histoire de jouets 1, 2, 3, mm-hmm. aujourd'hui, sont rendus adultes. Fait que là, ils sont contents de voir la suite parce qu'ils l'ont écouté, eux, en boucle. Là,
effectivement. Là, c'est rendu multigénérationnel. Donc, justement, les premiers enfants qui ont découvert ça, maintenant, aujourd'hui, vont emmener leurs propres enfants qui n'ont jamais vu Buzz et Woody au grand écran. Alors, c'est sûr que ça fait, ça devient un événement à ce moment-là.
Mais là, ils innovent. Hein? La fourchette, là, c'est pas clair, hein?
C'est ça. Donc, le quatrième film tourne autour d'un nouveau personnage qui s'appelle Fourchette, Forky, qui est un jouet fabriqué, un ustensile en plastique là qu'on a mis quelques décorations là, fabriquées comme on faisait à l'école. Et là, l'intrigue tourne autour de effectivement.
Là, tu sais qui va faire la voix au Québec?
Ça, c'est François Bellefeuille, l'humoriste qui fait, qui est un très bon choix.
Qui va être la fourchette.
Ouais, qui va être la fourchette.
Mais c'est parce que c'est dans l'air du temps, Eric, parce qu'on parle beaucoup, là, la fourchette, t'es pas sûr que c'est une fourchette ou une cuillère. Ouais. Fait que là, on est.
Oh, c'est une non-genrée.
Ben, il y a une petite crise existentialiste, effectivement.
Ou c'est une transe.
Est-ce que c'est un jouet ou pas un jouet?
C'est assez actuel, mettons, là. Tu sais, comme, là, le deuxième degré embarque, là.
Effectivement.
C'est ça.
Mais on parlait du côté québécois qui est très important dans Histoire de jouets, même Pixar, justement, ils prennent soin, Histoire de jouets principalement, parce que c'est peut-être celui-là que je connais le plus, de bien adapter leur voix selon le marché où ils sont. Hein. C'est pas simplement Eddie Murphy qui fait la voix et qu'on va simplement traduire, comme ça a été le cas avec Shrek, admettons.
Non, effectivement, ils sont très rigoureux pour prendre les voix de traduction. On va pas prendre nécessairement des vedettes non plus, comme c'est un peu la mode des fois dans certaines traductions qu'on voit. Là. Donc, c'est très intéressant. D'ailleurs, pour la version originale, bon, évidemment, c'est Tom Hanks qui fait la voix de Woody. Tim Allen qui fait la voix de Buzz. Ouais. Évidemment, à ce moment-là, Tim Allen était peut-être un peu moins populaire que Hanks, mais il était très populaire au petit écran dans une série qui s'appelait Home Improvement. Mais c'est Tom Hanks, c'était le premier choix du réalisateur pour jouer Woody. Tim Allen n'était pas son premier choix. Savez-vous quel comédien qui devait à l'origine incarner Buzz Lightyear? Dans ces années-là, c'était Billy Crystal.
Billy Crystal?
Ouais, Crystal.
Qui a refusé.
Qui a pas catché, qui a pas vu le potentiel. Et il a toujours regretté, évidemment.
C'est sûr.
Et c'est pour ça qu'il y a eu le rôle de Mike dans Monstres Incorporés. Alors, il a pu se racheter parce qu'évidemment, Pixar sont allés le rechercher. Donc, Buzz et Woody, écoute, c'est une grande manne au tournant des années 2000. Honnêtement, Disney vendait plus de figurines de poupées de Buzz et Woody que Donald et Mickey. Là. Ouais. Donc vraiment, ça a supplanté vraiment les jouets classiques, les personnages classiques de Disney. Et nous, on le vivait à l'imaginaire en boutique. Écoute, c'était fou, on rentrait des poupées à palettes là, et ça vendait. Parce que les gens ont vraiment identifié avec ces personnages-là, le cowboy, le personnage de l'espace. Et encore aujourd'hui, ça demeure ça très populaire. Ouais, ouais, écoute, ben,
c'est,
ça n'a jamais été mort.
Oui, c'est ça. Là, j'ai vu la critique dans la presse. Là, il leur donne un 4 étoiles sur 5. C'est très, très bon. Fait que j'imagine qu'il va y avoir full aux portes. En fait, toi, tu vas voir ça ce soir ou tu vas attendre un
peu? Pas ce soir, probablement en fin de semaine. Je vais voir.
Vas-tu y avoir full aux portes, tu penses?
Ah oui, c'est sûr qu'en fin de semaine, malgré le beau temps, écoute. On parle déjà d'un week-end probablement de 150 millions, ce qui le placerait au deuxième rang pour un film d'animation derrière qui? Les Incroyables 2 de Pixar, sorti l'an dernier, qui détient le record de 180 millions. Alors ça, c'est la marque à battre. Mais non, écoute, comme je disais, c'est un film événement. Le dernier film remonte à 9 ans déjà. Alors c'est certain que les gens, par nostalgie et comme je dis, avec leurs nouveaux enfants, un nouveau public vont découvrir ça.
Patrick Marleau, toujours un plaisir. Merci beaucoup, puis bon cinéma.
Ben oui, j'invite les gens à venir voir en boutique, d'ailleurs, à Laurier ou à Lévis pour les produits de Toy Story et de Pixar. On en a plein.
Vous avez
tout,
vous avez fait le plein.
Au FM 93.